L'audience est ouverte.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir, vous devez vous asseoir et ouvrir grand vos oreilles, car aujourd'hui, notre ami, Maître Philippe Arbouche, va nous parler d'une histoire de braconnage. On pourrait intituler cette émission « Gendarmes et braconniers ». Qui n'a pas un braconnier dans sa famille, cher Philippe, n'est-ce pas ?
Ne me regardez pas comme ça, ne me regardez pas comme ça. Oui. Alors le braconnage est quelque chose qui, aujourd'hui, non pas est tombé en désuétude, mais a changé de volume. On n'a plus le braco sympathique ou pas, mais... On n'a plus ce personnage isolé qui, somme toute, braconne aussi pour donner à manger à sa famille. On a des chasses aujourd'hui du braconnage avec des 4x4 qui, au phare, la nuit, vont chercher le gibier. Là, c'est pas de ça dont il s'agit. Là, j'ai retrouvé une histoire beaucoup plus, je sais pas si on peut dire romanesque, parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez terrible.
Il y a
des morts, voilà. Mais une histoire qui ressemble plus à l'idée qu'on se fait du gendarme et du voleur et du braconnier et du voleur. Alors, nous sommes donc en 1925. Et je vais situer les personnages. Donc on a une famille qui s'appelle la famille Maugé. Alors on est dans la région de Romilly, hein, de Romilly ou de Cloyes. Voilà, Cloyes sur le Loir. Donc on est bien en Eure-et-Loir. Et donc on a une famille qui sont donc les Maugé, qui sont surnommés dans la contrée les Marcassins.
Et là, on comprend tout de suite.
Bon, voilà. Alors, c'est pas des gens blancs, hein. Le père a déjà pris 5 ans de prison pour le meurtre d'un enfant suite à un avortement et une disparition du cadavre dans la forêt. Bon, voilà. Bon, faut dire qu'il a 23 enfants.
Hein. 23 enfants, oui. Incroyable.
23 enfants, voilà. Alors lui, ça, on va l'appeler Louis, c'est son nom, c'est son prénom. Donc Louis, c'est le père, et il entraîne dans cette histoire de braconnage cette fois-là, ce mois d'octobre, donc on est en automne, il a avec lui ses deux fils, Armand et Henri. Bon, l'idée est simple, hein, ils vont braconner sur les terres du marquis d'Argent, les terres de Bouville. Et le marquis, sans doute mécontent de voir disparaître son gibier, avertit les gendarmes et il donne même rendez-vous aux gendarmes. C'est en novembre, pas en octobre, je me suis trompé. C'est en novembre. Et il donne rendez-vous aux gendarmes à minuit en disant « comme ça, vous pourrez choper les bracos ». Et à minuit, on a effectivement deux Pandores qui prennent leur vélo et qui s'en vont sur les petites routes.
Deux, c'est pas beaucoup, on se dit.
Hein. Non, c'est pas beaucoup. On voit aussi que les proportions à l'époque entre le gendarme et le voleur, on déployait pas des forces extraordinaires, mais en face, ça n'était pas, et là c'est un peu le contre-exemple, mais ça n'était pas du terrorisme non plus.
Oui, puis il y avait la peur du gendarme, de l'uniforme.
Et il y avait la peur du gendarme et des sanctions qui étaient fortes et surtout infamantes hein, pour l'époque. Donc les deux militaires prennent leur vélo, ils s'en vont, et voilà, ils trouvent sur le chemin de la ferme, ils voient des lueurs. Alors c'est une lanterne sourde, hein, une lanterne qui n'est pas censée être vue de l'extérieur et qui est un usage chez les braconniers. Alors en fait, c'est une lanterne à réflecteur qui permet d'aveugler le gibier, hein, avant de le mettre en joue. Donc là, toutes les caractéristiques sont remplies. Les gendarmes s'apprêtent à faire leur travail, c'est-à-dire à arrêter ces braconniers. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Ben, on aura des versions un peu contradictoires. On aura l'une d'entre elles qui dit donc l'un des fils. Alors il y a le père Louis, le fils Armand et le fils Henri. Alors Armand aurait dit merde. « Visez les Moltières, c'est des gendarmes. » Bon, Mais viser les molletières, ça veut dire quand même...
Tirer dans les jambes, quoi, c'est ça.
Hein. Tirer dessus, hein, ouais. Tirer dessus. Et puis, on nous dit que le gendarme... Alors, il y en a deux. Il y a le chef Robin, et le gendarme Coutan. Et on nous dit que le chef Robin aurait lancé les sommations d'usage, pourquoi pas, hein, haut les mains. Toujours est-il qu'il y a une bagarre et que des coups de feu sont échangés. Alors, beaucoup de coups de feu... Bon. Le gendarme Coutan est blessé sur le flanc. Et le gendarme Robin, lui finira victime du coup de feu, un tir mortel. Alors en fait, on ne sait pas réellement qui a tiré. On est la nuit, dans les bois, tous sont armés. Les braconniers n'ont certainement pas envie de se faire prendre, hein, sachant que
on prenait cher quand on était braco à l'époque.
Pardon.
On prenait cher quand on était braco à l'époque.
Oui, on prenait cher, oui, bien sûr, oui, parce que le braconnage, si vous voulez, était considéré comme une atteinte au bien.
Oui.
On comparerait aujourd'hui avec un peu les bandes organisées qui volent et qui recyclent. Voilà, ces bandes qui viennent de divers pays et qui sont des
tribus. Quand même.
Ah oui, c'est le même état d'esprit, si vous voulez. Le braconnier qui à la fois fait sourire, en même temps, faut pas qu'il se fasse choper. Quoi. Oui. C'est un peu. C'est gendarmes et voleurs quand même. Hein. Ce sont généralement des petits gens, hein, les braconniers. Mais ils n'ont pas forcément une bonne réputation dans les villages parce que les gendarmes viennent souvent, donc ça ternit l'image du village, etc. Puis ceux qui ne braconnent pas se font avoir. Hein. Alors, il y a vraiment une bagarre. La bande des Marcassins est là, et le brave Coutan, gendarme Coutan, est blessé, il s'évanouit. Et puis, Henri, donc un des fils, est touché en plein cœur et meurt lui aussi. Donc, meurt lui, et là, il y a un coup de feu, et au final, le brigadier Robin décède. Donc, résultat des courses, un gendarme gravement blessé, un autre qui est mort, un braconnier mort, et les deux autres en fuite.
Ouais, ça commence comme une farce villageoise et ça se termine vraiment en drame.
Ah bah oui, on a deux morts là,
c'est
quand même. Hein.
Deux morts quand même.
On a deux morts, hein, dont un brigadier de gendarmerie. Donc le gendarme qui est blessé rentre comme il peut à la caserne. Il réveille des collègues et les collègues arrivent et trouvent sur les lieux le cadavre du brigadier Robin et de Henri. Bon, comme c'est Henri Mauger et qu'ils sont surnommés les Marcassins. Très vite, les gendarmes imaginent que les complices étaient le père et le frère. L'autre frère est blessé et il est retrouvé chez lui avec une balle dans la poitrine, ce qui veut dire quand même qu'il n'était pas, en train de regarder la télévision en 1924 qui n'existait pas. Mais bon, en tout cas, il ne jouait pas aux cartes. Voilà, c'est ça. Le père est recherché. Alors, on déploie. Alors, c'est là où c'est intéressant, si je puis dire, c'est que quand on a un événement comme celui-là, c'est-à-dire un policier ou un gendarme, ici un gendarme en l'occurrence, qui est blessé, le système se met en place. C'est bien connu. Toute la machine judiciaire est encore plus efficace. Hein, pour des raisons qu'on comprend aisément, c'est que représentant ayant une mission d'ordre public à accomplir, si on tire sur les gendarmes, c'est tout le système qui
s'écroule. C'est violence sur personne, dépositaire de
l'autorité publique. Et là, coup mortel. Donc, vaut mieux pas que ça arrive, ce genre de choses, parce que quand ça arrive, et c'est le cas ce jour-là, on a le procureur qui est sur place. Alors, c'est la gendarmerie de Vendôme, hein, techniquement. Le procureur qui est sur place, le juge d'instruction, et c'est à Pezou que le père, donc Louis Mauger, est arrêté. 67 ans, cultivateur. Il dit « J'étais venu chez mon fils. Nous, on avait décidé d'aller chasser dans la nuit parce qu'on avait envie de manger du lapin. » Donc il ne conteste pas les faits. Il avait envie de manger du lapin, c'est tout. Il est très, très courtois. Il dit du monsieur le juge, du messieurs les gendarmes. Et il dit que c'est Armand qui a tiré, donc c'est son fils. Et il dit que le chef Robin, donc le défunt, n'a pas tiré. Bon. Sauf que sur place, il manque quand même 5 cartouches dans le chargeur du gendarme. Et puis le témoin, donc monsieur le marquis, a entendu une fusillade. Bon, il y a eu une fusillade, c'est clair. Alors, là où l'affaire prend une certaine tournure, et braconnier et gendarme, et on voit qu'on ne joue pas dans la même cour, c'est que donc Armand, le braconnier, le fils, a le poumon transpercé, le rein transpercé, enfin bon, c'est très grave, mais évidemment, le brigadier Robin est décédé. Et alors, défile chez sa veuve tout ce que la bonne société compte de notable. C'est le maire, bien sûr, c'est le sous-préfet, ce sont les responsables de la justice, ce sont des félicitations qui pleuvent sur le survivant Coutant. Et lorsque ce malheureux brigadier Robin est enterré à Cloyes, ce sont des gens, enfin, on a le sous-préfet, on a le général commandant du corps de gendarmerie, tous les collègues, les personnalités locales.
Donc, mais peut-être pas la population, parce que... On sait qu'à l'époque, les gendarmes n'étaient pas très bien vus non plus.
Alors, les gendarmes, si vous voulez, là je vais dire de façon un peu cruelle et sans doute un peu apparaissant, un peu cynique, peut-être aux auditeurs, mais quand on est mort, on est pareil un peu de toutes les vertus. Oui. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions, cet homme. On ignore toutes ses qualités ou de ses défauts, et peu importe, là, il devient... vraiment un martyr.
Ouais, victime du devoir.
Il devient un martyr. D'ailleurs, il a le drapeau tricolore sur le cercueil. Il est jeune, hein, il a 36 ans quand même. Hein. Il a une souscription qui est lancée au profit de sa veuve par la revue Saint-Hubert. Il est décoré à titre posthume, etc. Donc, là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que l'opinion publique qui va être amenée à juger les jurés, l'ensemble... a déjà jugé que l'assassin de ce brigadier méritait une très forte sanction. On est passé du braco poseur de collet sympathique et qui se fait avoir, je pense, à ni vu ni connu, ce film avec Louis de Funès.
C'est formidable. Bon,
où le Louis de Funès est un braconnier sympathique.
Avec son chien Foulcan.
Avec son chien Foulcan, viens ici Foulcan. Et avec le brigadier qui le poursuit, qui est bonnet, qui est nigaud, etc. Bon, ce film est assez amusant. Mais
là, on est loin de ça.
Mais là, on n'est pas sur le même registre. On est sur... Il y a deux morts, dont un brigadier. Alors, le procès de Louis et de Armand c'est celui qui était blessé, hein, Louis c'est le père, le procès a lieu au mois d'octobre 1925. Parenthèse qu'on a déjà faite lors de l'émission précédente. Hein.
Ça va...
Très vite.
Ça va très vite.
Moins d'un an.
Oui.
Novembre, les faits. Octobre, le jugement en cour d'assises. Et rien ne permet de dire, au vu des éléments dont on dispose, que c'est un jugement, enfin que c'est une enquête qui a été menée en dépit du bon sens. Parce qu'on pourrait dire, après tout, ça a été un peu, voilà, vite fait, mal fait. Pas du tout. En tout cas, ça n'apparaît nulle part.
Alors peut-être qu'il y avait moins aussi d'affaires à l'époque, j'imagine. Oui. D'homicides, de crimes.
Ah, des crimes, si. Oh, si, des crimes, il y en avait. Si. Il y avait des crimes. Les homicides, il y en avait pas mal aussi. Mais c'est sûr que globalement, il y avait moins d'affaires.
Oui.
Globalement, et puis il n'y avait pas aujourd'hui, ce qui constitue quand même 70% des cours d'assises, des affaires de mœurs, c'est-à-dire des viols, qui sont bien sûr des actes criminels, passant en cours d'assises. Mais, si vous voulez, le volume de la cour d'assises, on jugeait les crimes de sang, quoi, en cour d'assises. En gros, c'était chaque fois qu'il y avait un mort, un meurtre, voilà. Très, très peu de viols, statistiquement, alors que la tendance s'est complètement inversée. Et donc, ça explique peut-être aussi la saturation, bon, sachant qu'il n'y a, y a toujours pas plus de magistrats. Donc, en octobre, Louis et Armand sont devant la cour d'assises. On ne sait toujours pas qui a tiré sur le brigadier chef. Alors, Armand, lui, donc le survivant, a dit que c'est Henri qui aurait tiré. Bon, Henri, il est mort. Donc, bon, c'est toujours
on ne peut pas lui faire davantage de mal.
Voilà, on ne peut pas. Donc, et c'est pas moi, c'est l'autre. Mais, et le père, n'oublions pas qu'il a dit tout de suite, c'est Armand qui a tué le brigadier. Ouais. Donc on va retenir la thèse la moins favorable, parce que dans le doute, on ne saura jamais qui l'a tué. Alors l'audience est assez folklorique, si l'on peut dire. Vous êtes braconnier, alors que fait votre fils? Que font vos fils, hein? Ils font comme vous. Oh, moi j'ai toujours travaillé, dit Louis. Quand je pouvais pas, il me fallait bien du pain pour nourrir ma famille, et j'ai élevé 23 enfants, dont 12 sont à moi. Donc, il n'y a que 12. Oui, c'est pas 23... Enfin bon, quand même. Il a élevé 23 enfants, dont 12 à lui. Alors il dit, j'ai été braconnier, oui, mais je ne le suis plus maintenant. Bon. Alors qu'est-ce que vous faisiez en pleine nuit? Ah ben, j'étais avec mes enfants, c'était eux qui me conduisaient, quoi. C'était eux qui faisaient tout ça. Vous êtes en contradiction les uns les autres. Le gendarme a dit haut les mains, dit le président de la cour, et votre fils a répondu par un coup de fusil. Ah non, 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 le vieux, si on peut dire, dit... ah non, non, j'aime beaucoup le vocabulaire, il dit « ça n'existe pas, ça, monsieur le juge ». Voilà. Le gendarme m'a mis à l'épaule. Il m'a dit tout bas « allez, vous êtes pris et arrêté ». Mais... c'est pas bon. Le président lui dit, mais au moment de la fusillade, Henri portait la lanterne, il n'avait pas d'arme. Ah oui, ouais, je sais plus. Et puis après, vous avez dit que votre fils avait tiré deux coups de fusil, dont l'un a tué le brigadier. Ah bah oui, mais je dis que le fusil appartenait à Armand. Enfin bon. Tout ça est très embrouillé, mais il faut que l'on sache, et c'est à peu près clair que c'est pas Louis qui a tiré. Donc on ne peut pas savoir qui a tiré. Dans le doute, on va condamner Armand à la peine capitale, qui sera commuée d'ailleurs par Doumergue, par Gaston Doumergue.
Président du conseil de l'époque, hein, c'est ça?
Oui, oui, en réclusion criminelle à perpétuité, et en travaux forcés.
En travaux forcés.
Hein. Travaux forcés. Et Louis est condamné à 15 ans. 15 ans, donc, de réclusion. Ce qui me semble, si vous voulez, intéressant, c'est que il a fallu qu'à un moment donné, on sache qui avait tiré. Et là, on a l'arrivée d'un expert, professeur de médecine, qui dit que après l'examen des corps, la position des suspects, la reconstitution, etc. Ce n'est pas Louis qui a pu tirer parce qu'il a des rhumatismes, donc c'est Armand l'assassin. On élimine Henri qui aurait porté la lanterne. Et là où cette histoire m'a fait penser à des événements plus contemporains, c'est que j'ai eu à connaître de ce genre d'affaires, pas de braconnage mais de tir, qui heureusement n'avait pas été mortel, heureusement. Dans un contexte un peu semblable à celui-là, c'était un braquage assez minable chez quelqu'un qui avait un commerçant qui avait emporté sa recette chez lui, et les trois malfrats avaient repéré le lieu et s'emparaient de la recette. Ils voulaient s'emparer de la recette. Ils rentrent dans la maison et malheureusement pour eux, le commerçant s'interpose en disant « Non, non, vous n'aurez pas des sous. Un coup de feu est tiré ». Et le commerçant est blessé. Fort heureusement, il n'est pas tué, il est blessé. Mais enfin, un coup de feu est quand même tiré. Ça veut dire que s'ils avaient des armes, ce n'était pas des armes à blanc. Quoi. Ouais. C'était... Donc le tout est de savoir, au moment de la cour d'assises, qui a tiré ce coup de feu. Et là où je veux en venir, c'est que ça m'a laissé un souvenir un peu étrange. C'est que l'expert, et si on compare à l'expert de l'époque qui était formel, mon expert à moi, c'était vraiment un expert archi-connu dans le monde de la... des armes, de la balistique, et un expert vraiment reconnu. Et il est formel, il arrive à la barre avec un épais dossier, disant « c'est
un tel,
c'est A qui a tiré, ça ne peut en aucun cas être B ». Et il démontre devant la cour, les jurys, je vous rappelle que les jurys sont des gens tirés au sort, hein, oui. Qui n'ont pas forcément l'habitude des armes, des expertises, etc. Et il démontre devant la cour que ça ne c'est forcément A et que ça ne peut pas être B. Donc A dit non, c'est pas moi, c'est B, c'était deux frères. C'est pas moi, c'est B. B dit oui, oui, c'est moi. Mais l'expert est formel.
Non, oui, démarre pas.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, A avait déjà un casier et B n'en avait pas. Donc on pouvait comprendre la stratégie de défense. Bon. Et l'expert est formel, c'est A. Bon. Écoutez, le rapport fait 50 pages. L'expert vient pendant une demi-heure nous expliquer en long, en large et en travers qu'il y avait ci, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça.
C'est difficilement contestable.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon. Donc on part sur cette idée et A est condamné pour avoir donné le coup de feu tiré. Bon. L'affaire en reste là. Les deux protagonistes sont condamnés. J'oublie cette affaire. Et un an après, je reçois un courrier de A qui me dit « Est-ce que vous pouvez venir me voir en prison ?» Donc, à l'occasion d'une de mes visites en détention, je vais le voir, sachant pas du tout ce qu'il me voulait, et je le trouve assez détendu, assez bien. Il n'avait rien à perdre, puisqu'il n'y avait pas d'appel possible, il n'y avait rien à revoir de quoi que ce soit, de quelque nature que ce soit. Il n'y a aucun enjeu. Donc, en me demandant de venir, c'était du purement gratuit, si je puis dire. Et il me dit, je vais vous faire une déclaration formelle, ce n'est pas moi qui ai tiré, c'est B. Mais je lui dis, c'est pas possible, le rapport d'expert. Il me dit, écoutez, le rapport d'expert, c'est le rapport d'expert. Moi, je vous le dis les yeux dans les yeux, j'en ai rien à fiche maintenant, et mon frère non plus, peu importe, c'est pas moi qui ai tiré, c'est B. Et j'ai...
De ce jour-là, les experts vous sont semblés beaucoup moins experts que...
C'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas de raison de douter de la parole de ce garnement, qui est plus qu'un garnement. Il n'avait aucun enjeu. Et j'ai compris depuis lors que l'expert, c'est la posture qu'on lui donne. Les présidents de cours d'assises, aujourd'hui, sont beaucoup plus prudents sur ces expertises qui sont absolument formelles. Là, je suis formel, vous voyez, la position du tireur est là, etc., etc. Et nous, en défense, nous sommes pas du tout équipés pour contredire ou simplement poser des questions.
Contre-expertise.
Contre-expertise, mais oui, mais si le juge d'instruction la refuse, nous n'avons aucun moyen, on peut faire appel, mais si c'est refusé et qu'on a un expert qui est reconnu comme quelqu'un de nationalement connu, etc., on n'a quasiment pas de moyen de prouver, on n'est pas dans le droit anglo-saxon, si vous voulez, on ne peut pas faire venir à la barre notre propre expert, et les jurés sont extrêmement influencés. Et si on revient à l'histoire des braconniers, les jurés sont extrêmement influencés par le fait que ce malheureux brigadier qui est décédé a eu droit à des honneurs nationaux, quasiment. Donc ça influence les bons et les gentils. Mogé a un sale pédigré. C'est des sales gens. Pas trop aimé. Et on arrive en plus avec un expert qui est formel et qui dit « c'est lui qui a tiré et non l'autre ». Bon. Je ne remets pas en cause le dossier de Mogé, hein. Mais tout est fait pour qu'on aille dans le mur, à la condamnation. Ce sont des petits cailloux qui sont disposés ça et là sur une affaire comme ça. Et à travers l'affaire de ces braconniers et de ce gendarme, on voit qu'en fait, comment se construit un dossier. C'est-à-dire que dans le doute, eh bien, on va prendre ce qui est vraisemblable et puis on va étayer ce qui est vraisemblable sans parfois remettre en cause.
Oui.
Je dis pas que c'est pas ce qui s'est passé.
On a le coupable.
On les a.
On se donne le coupable qu'on a voulu.
On les a. Et parfois, il apparaît que, ce qui n'est pas le cas ici, mais il y aurait pu avoir un quatrième homme, par exemple, dont on cache l'existence jusqu'au bout et qui aurait tiré. Mais non, si vous voulez, on a tout ce qu'il faut.
Et quant au gendarme qui a tué un fils Mogé, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est jugé d'une manière ou d'une autre?
Non, pas du tout. Non, il n'y a pas eu de...
Il n'y a pas d'IGS, quoi, à l'époque.
Non, il n'y a pas d'IGS. Il n'y a pas d'IGS. Sans compter que, pour le coup, la légitime défense, je vous rappelle, la légitime défense, c'est qu'on doit être proportionné, hein, l'acte doit être proportionné, et dans le temps, dans le même temps, donc bien évidemment, le gendarme étant directement menacé, a sorti son arme. Et la preuve, c'est qu'on a tiré sur coup tant quand même et qu'on l'a blessé gravement. Donc la légitime défense ici est tout à fait avérée. Mais donc pas de jugement.
Philippe Herbouche, merci beaucoup. on souhaitait, enfin, vous souhaitiez nous parler d'un livre, mais on n'aura pas le temps de parler de ce livre. Ce sera pour la prochaine fois, mais c'est un bouquin qui m'a l'air extraordinaire, le journal de Maurice Garçon, qui fut un avocat célèbre dans les années 40, et on comprend pourquoi son journal est intéressant. Vous nous en parlerez la prochaine fois.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. L'audience est fermée.
L'audience est fermée. Depuis les mains rouges, je peux s'en aller.
À très bientôt. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Vous pourrez bien évidemment réécouter cette émission sur notre site en podcast. Donc, c'est www.radiograndciel.fr. L'audience est ouverte. Thank you.